Bonjour à tous, voici l'émission de l'Église protestante unie de Chartres-Beauce-et-Perche, animée par Jean-Paul et Marie-Christine de Vels. Bonjour Jean-Paul.
Bonjour Marie-Christine et bonjour à tous.
Et aujourd'hui, nous allons réfléchir sur le retour du Christ et la venue du royaume. La première lecture, à partir de ce thème, se trouve dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, les versets 42 à 47. Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte gagnait tout le monde. Beaucoup de prodiges et de signes s'accomplissaient par les apôtres. Tous ceux qui étaient devenus croyants étaient unis et mettaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens pour en partager le prix entre tous selon les besoins de chacun. Unanimes, ils se rendaient chaque jour assidûment au temple. Ils rompaient le pain à domicile, prenant leur nourriture dans l'allégresse et la simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et trouvaient un accueil favorable auprès du peuple tout entier. Et le Seigneur adjoignait chaque jour à la communauté ceux qui trouvaient le salut.
Et la deuxième lecture que nous vous proposons se trouve dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 24, les versets 23 à 35. Alors si quelqu'un vous dit « Le Messie est ici » ou bien « Il est là », n'allez pas le croire. En effet, de faux messies et de faux prophètes se lèveront et produiront des signes formidables et des prodiges au point d'égarer, s'il était possible, même les élus. Voilà, je vous ai prévenu. Si donc on vous dit « Le voici dans le désert », ne vous y rendez pas. « Le voici dans les lieux retirés », n'allez pas le croire. En effet, comme l'éclair part du levant et brille jusqu'au couchant, ainsi en sera-t-il de l'avènement du Fils de l'homme. Où que soit le cadavre, là se rassembleront les vautours. Aussitôt après la détresse de ces jours-là, le soleil s'obscurcira, la lune ne brillera plus, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors apparaîtra dans le ciel le signe du Fils de l'homme. Alors toutes les tribus de la terre se frapperont la poitrine et elles verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel dans la plénitude de la puissance et de la gloire. Et il enverra ses anges avec la grande trompette et des quatre vents d'une extrémité des cieux à l'autre, ils rassembleront ses élus. Comprenez cette comparaison empruntée au figuier. Dès que ses rameaux deviennent tendres et que poussent ses feuilles, vous reconnaissez que l'été est proche. De même, vous aussi, quand vous verrez tout cela, sachez que le Fils de l'homme est proche, qu'il est à vos portes. En vérité, je vous le déclare, cette génération ne passera pas que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas.
Les chrétiens attendent, aujourd'hui encore, le retour du Christ sur la terre, ce que les théologiens appellent la parousie. En particulier, les églises ou les sectes, dites millénaristes, pensent que Jésus va revenir, qu'il va rétablir la justice sur la terre, qu'il va régner 1000 ans avec les justes, puis auront lieu la fin du monde et le jugement dernier. Mais ce n'est pas réservé aux sectes. De nombreux charismatiques catholiques ou évangéliques protestants professent une pensée apparentée, apposent sur leur voiture des autocollants proclamant « Jésus revient » ou chantent des cantiques modernes dont la dernière strophe, presque immanquablement, fait allusion à ce retour tant attendu.
À l'opposé, le reste des chrétiens n'attend guère ce retour et considère que Jésus est venu une fois pour toutes et que c'est maintenant à l'homme, avec l'aide de Dieu, de faire le mieux possible dans ce monde qui lui est confié. Le problème, c'est que ce retour est annoncé par l'Écriture et en particulier dans le texte de l'Ascension. Ce Jésus qui a été enlevé au ciel au milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. C'est dans Actes chapitre 1, verset 11. Et il semble que Jésus lui-même ait annoncé une fin du monde imminente, avec en particulier ce grand discours dit de l'Apocalypse synoptique que nous avons lu tout à l'heure, que l'on trouve en Matthieu chapitre 24, où interrogé sur la fin des temps, il déclare « Cette génération ne passera point que tout cela n'arrive ».
Et là, difficulté pour les millénaristes, certes Jésus l'a annoncé, cette fin du monde et ce retour du Fils de l'homme, mais apparemment il y a un certain retard, puisque 2000 ans après, de nombreuses générations ont passé et l'on attend encore. Pour résoudre cette difficulté, les tenants du retour matériel du Christ disent qu'il faut entendre le mot « génération » au sens large de « civilisation ». Pourquoi pas ? Mais théologiquement, on peut avoir une objection majeure à cette théologie du retour du Christ. Le message essentiel de l'Évangile est que le Christ est venu, ce qui veut dire « le Messie est venu » et non pas « Christ va venir ». Le message de Noël est que nous sommes dans les temps messianiques et justement qu'il n'y a plus à attendre. Si nous sommes dans les temps messianiques, c'est que tout est accompli.
Et c'est justement ce qui distingue les Juifs des chrétiens. Les Juifs attendent et les chrétiens n'attendent plus. La position millénariste fait retomber le chrétien dans le judaïsme en ce sens qu'il ne vit plus de la venue du Messie, mais de l'attente de la venue du Messie. On peut soupçonner chez les millénaristes une dépréciation de la valeur et de l'importance de la venue du Christ, puisqu'ils attendent encore autre chose. Cela peut être vu comme un manque de foi en Jésus qui est venu parmi nous et qui est le Messie, qui est le Christ.
Par ailleurs, ce type de théologie peut sembler alors dangereux, en ce sens qu'il risque de démobiliser l'homme. Si Jésus va revenir rétablir toute justice, alors je n'ai, moi, rien à faire ici-bas que d'espérer et d'attendre ce retour. Et puis, de deux choses l'une, ou bien ce retour, je le verrai moi, alors effectivement, je n'ai plus à m'engager dans le monde. C'était l'attitude des premiers chrétiens des Actes des Apôtres qui avaient tout vendu et cessé toute activité terrestre pour se consacrer à la prière. Ou bien, je ne la connaîtrai pas personnellement, alors à quoi me sert l'annonce d'un événement qui ne me concerne pas directement ?
Et de toute façon, puisque cela fait 2000 ans que le retour du Christ, pas plus que la fin du monde, ne sont intervenus, cela voudrait dire que cela fait 2000 ans que les chrétiens lisent les textes apocalyptiques qui ne les concernent pas. Cela en soi est choquant, surtout si l'on pense que le message du Christ, comme tout texte biblique, concerne tout chrétien, à tout moment dans son « ici » et « maintenant ».
Ceux qui, au contraire, n'attendent pas le retour du Christ et qui pensent que la fin du monde n'est pas pour tout de suite, aujourd'hui s'en sortent parfois d'une façon brutale, en disant tout simplement que, sur ce point, Jésus et à sa suite les disciples se sont trompés. Ils ont cru à une fin du monde imminente, à tort.
On peut considérer que cette thèse, pour radicale qu'elle est, pose problème. Si Jésus s'est trompé sur un point aussi essentiel que celui-là, est-ce que cela ne remet pas en cause pratiquement l'ensemble de sa prédication, de sa conception du monde, du rôle de l'homme et de son propre rôle dans le monde ?
Certes, il est à peu près évident que les premiers chrétiens ont, eux, partagé cette opinion. Ils ont cru à un retour imminent du Christ. Mais on peut penser que cette erreur, qui a entraîné la calamiteuse première communauté chrétienne des Actes des Apôtres, qui s'est trouvée très rapidement, par la non-venue de cette fin du monde, dans une situation matérielle catastrophique, au point que Paul devait faire la mendicité dans tout le bassin méditerranéen pour essayer de les faire vivre, n'était que le fait des disciples et non du Christ lui-même. Ce peut donc être les disciples qui ont interprété comme cela des propos de leur Seigneur qui étaient d'un autre ordre. Vous écoutez Radio Grand Ciel, l'émission de l'Église protestante unie de Chartres-Beauce et Perche. Simon Martin est à la technique et nous entendons des extraits d'un CD du flûtiste Jean-Pierre Rampal, accompagné de la harpiste Marielle Nordmann et des musiques de Fauré, Beethoven, Bach, Donizetti.
En particulier, on peut penser que le Christ parlait dans un sens spirituel de sa venue. De même qu'il se disait roi des Juifs, mais dans le sens d'une royauté spirituelle, affirmant « Mon royaume n'est pas de ce monde ». C'est Jean, chapitre 18, verset 36. Ainsi, le Fils de l'homme doit bien revenir, mais pas comme étant de ce monde, comme une réalité spirituelle. Christ doit revenir dans nos cœurs pour habiter en nous, afin qu'il soit en nous. Il ne s'agit pas d'un événement matériel, historiquement datable à un moment précis, à un lieu précis pour tout le monde, mais chacun doit expérimenter dans sa propre vie cette réalité du retour du Christ pour lui et en lui. Christ est venu dans le monde il y a 2000 ans, encore faut-il qu'il revienne aujourd'hui encore pour être présent dans la vie de chacun.
Il semble même que ce soit précisément ce qu'explique le Christ dans ce passage de l'Apocalypse de Matthieu que nous avons lu tout à l'heure au chapitre 24, les versets 23-28. Si quelqu'un vous dit alors « le Christ est ici » ou « il est là », ne le croyez pas. Si donc on vous dit « voici, il est dans le désert », n'y allez pas. « Voici, il est dans les chambres », ne le croyez pas. Car la venue du Fils de l'homme sera comme l'éclair, part de l'Orient et se montre jusqu'à l'Occident. Là où sont les corps, là s'assembleront les aigles.
Le Christ doit revenir dans nos vies, non comme un événement matériel, mais comme une grande lumière qui traverse tout, de l'est à l'ouest. Mais ce n'est évidemment pas une lumière qui se compte en kilowatts. C'est cette même lumière du psaume 27 affirmant « L'Éternel est ma lumière et mon salut » ou de l'évangile de Jean quand Jésus dit de lui-même « Je suis la lumière du monde » au chapitre 8, verset 12. Ce Christ qui doit venir dans nos vies vient comme la puissance de l'aigle qui est l'image dans la Bible de l'élévation spirituelle, de la foi qui s'élève du matériel de la terre pour aller vers le spirituel du ciel. Et le lieu de cet événement extraordinaire, c'est chaque corps mortel. Chacun de nous est le lieu même du retour du Christ.
De la même manière, quand nous prions le Notre Père en disant « Que ton règne vienne », nous ne nous mettons pas dans une situation passive en disant à Dieu « Je t'en prie, fais vite pour accélérer la venue de la fin de ce monde pourri ». Mais au contraire, nous exprimons le souhait que nos propres vies puissent devenir de plus en plus le lieu même de l'écoute, du service et de l'obéissance à Dieu, ce que l'on exprime par le règne de Dieu.
Et de même encore, l'Apocalypse ne parle pas non plus d'un événement catastrophique qui doit arriver, mais de la fin du monde, ce qui doit être entendu dans le sens de finalité. C'est ce qu'il advient du monde matériel quand Christ se révèle. Ce qui arrive dans une vie lorsque le Christ se rend présent spirituellement. Cela entraîne un certain nombre de bouleversements qui sont loin d'être des catastrophes, mais au contraire des bonnes nouvelles. Il est vrai qu'alors certaines choses disparaissent ou se défont. Ce sont les attachements pervers, les anciennes attitudes, les aliénations, tout notre rapport idolâtre au monde terrestre.
Il est vrai aussi que la présence du Christ dans une vie va nécessairement de pair avec un jugement dernier. Mais pas dernier au sens où il est le plus tardif en date, mais dans le sens où il est le plus essentiel, le plus fondamental. C'est cette présence du Christ qui nous permet d'attribuer à chaque chose dans notre vie sa vraie place, de savoir ce qui a une vraie valeur et ce qui ne vaut rien. Cela n'est pas à craindre, mais à espérer, parce qu'il y a bien là une véritable révélation, ce qui est le vrai sens de Apocalypsis en grec.
Comparaître devant le trône de Dieu, c'est non pas ce que nous redoutons, mais ce que nous désirons le plus. C'est ce que nous faisons tous les jours dans la prière. La prière, c'est se mettre dans la présence de Dieu, c'est faire venir le Christ en nous pour qu'il se révèle à nous et qu'il fasse mourir ce qui en nous n'est pas à lui.
Christ revient sans cesse. Selon sa propre promesse, chaque fois que deux ou trois sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. Et il ne s'agit évidemment pas d'un retour matériel, mais d'une présence spirituelle.
Il est vrai, et nous l'avons dit, qu'il semble bien que certains des premiers chrétiens aient cru, eux, à une parousie historique. Mais il est vrai aussi qu'obsédés par cette idée, il arrive que nous la trouvions même où elle n'est pas.
C'est ainsi que nous lisons dans nos traductions habituelles, par exemple la traduction Second pour les protestants, dans la deuxième lettre aux Thessaloniciens, chapitre 1, verset 7, ce que Paul dit à ceux qui sont affligés, pour vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, alors que ce n'est pas du tout ce qui est écrit. Le texte dit littéralement « à avoir le repos avec nous dans la révélation du Christ depuis le ciel avec les messagers puissants dans une flamme de feu ». Ce qui est déjà très différent. Et si l'on sait en plus que l'ange qui signifie « messager » représente dans la Bible la parole même de Dieu et que le ciel est une métaphore de Dieu lui-même, comme le feu est signe de sa présence. Dans un langage plus moderne, on pourrait traduire « à avoir la paix avec nous dans l'enseignement du Christ qui vient de Dieu, avec tous ceux qui l'annoncent dans la présence de Dieu ».
Il n'y a là aucune parousie spectaculaire, mais juste l'idée que le Christ est présent dans sa parole, dans son évangile, et que cette parole gouverne le monde, ou juge dans le langage biblique, puisqu'il y a un seul mot en hébreu pour dire « gouverner » et « juger ». Oui, Christ revient sans cesse, et sans cesse se tient à notre porte et frappe, afin que nous le reconnaissions et que nous lui ouvrions notre porte. Apocalypse, chapitre 3, verset 20. L'annonce de l'Apocalypse n'est qu'une bonne nouvelle. Les choses anciennes sont passées. Dieu fait toutes choses nouvelles.
Le retour du Christ n'est pas à attendre, mais à préparer en nous. Le jugement dernier n'est pas à craindre, mais à désirer afin qu'il s'opère en nous le plus souvent possible. L'Apocalypse, le jugement dernier, le retour du Christ, c'est aujourd'hui et maintenant pour chacun de nous, si nous le voulons bien. Ne le remettons pas à demain. Amen.
Je vous propose quelques mots pour le sourire, pour garder le sourire. Un sourire ne coûte rien et produit beaucoup. Il enrichit ceux qui le reçoivent sans appauvrir ceux qui le donnent. Il ne dure qu'un instant, mais son souvenir est parfois éternel. Personne n'est assez riche pour s'en passer, personne n'est assez pauvre pour ne pas le mériter. Il crée le bonheur au foyer, soutient les affaires, il est le signe sensible de l'amitié. Un sourire donne du repos à l'être fatigué, rend du courage au plus découragé. Il ne peut ni s'acheter, ni se prêter, ni se voler, car c'est une chose qui n'a de valeur qu'à partir du moment où il se donne. Et si quelquefois vous rencontrez une personne qui ne sait plus avoir le sourire, soyez généreux, donnez-lui le vôtre, car nul n'a autant besoin d'un sourire que celui qui ne peut en donner aux autres.
Il est le moment de se quitter. Je vous dis au revoir et à bientôt.
Au revoir et à bientôt.